France Culture.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
L'avenir de l'Arménie repose sur une stratégie visant à renforcer l'indépendance, la souveraineté, la démocratie et l'état de droit. Nous allons poursuivre, bien sûr, la mise en œuvre de la réforme démocratique avec le soutien de nos partenaires européens. Comme je l'ai annoncé et comme le prévoit déjà la loi, nous allons réformer l'Arménie afin de la mettre en conformité avec les normes de l'Union européenne.
Le Premier ministre sortant, Nicole Pachignan, et son parti Contrat Civique ont donc remporté les élections législatives qui se tenaient le 7 juin en Arménie. Avec 49,8% des suffrages, il devance largement son opposant Samuel Karapetyan, un oligarque proche de la Russie. Nicole Pachignan, qui gouverne le pays depuis 2018, promet donc de nouvelles réformes, très clairement axées sur les standards et les valeurs de l'Union européenne dont il entend se rapprocher. Faut-il y voir une volonté de rompre avec Moscou ? Comment la situation en Arménie résonne-t-elle avec celle de la Géorgie, dont le gouvernement est contesté par une grande partie de sa population ? Quels intérêts et influences russes dans le Caucase ? Et pourquoi les pays de la région se retrouvent-ils sommés de choisir leur camp ? On en discute avec nos invités. Régis Jeantet, bonjour.
Bonjour à vous.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste spécialiste de l'ancien espace soviétique, correspondant durant une vingtaine d'années dans le Caucase, à Tbilissi, pour divers médias dont RFI, France 24 ou Le Figaro. Je voulais mentionner aussi...
France Culture.
Et France Culture, n'oublions la maison. Et mentionner votre dernier ouvrage, Notre homme à Washington, Trump dans les mains des Russes, paru chez Grasset. Et nous sommes en ligne également avec Taline Papadzian. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes politologue enseignante en relations internationales à Sciences Po, et c'est une discussion comme chaque vendredi, animée, co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Et bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
Et on commence avec votre édito.
Oui, alors les Arméniens mettent le cap à l'ouest. En témoigne, comme tu le disais, la très large victoire aux élections du 7 juin de Nicole Pachignan, le premier ministre sortant, qui est porteur d'une politique d'ouverture vers l'Europe et de normalisation avec l'Azerbaïdjan, qui avait reconquis par la force des armes la région du Haut-Karabakh en chassant la population arménienne. C'est clairement un échec pour Vladimir Poutine, malgré ses menaces, ses ingérences et la dépendance économique arménienne du marché russe. Erevan a fait ce choix. Enlisé dans la guerre d'Ukraine, le président russe est à la peine, dans son arrière-cour caucasienne. La paix, même si encore bien fragile entre Erevan et Bakou, est en grande part l'œuvre de Donald Trump. Une telle intervention de Washington en Transcaucasie aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Cette route vers l'Occident est difficile et surtout elle n'est pas irréversible. En témoigne le sort de la Géorgie voisine, toujours plus reprise en main par Moscou, alors qu'elle était, il y a encore 10 ans, sous la présidence de Mikhail Saakashvili, la plus avancée de la région, dans la voie des réformes pour aller vers l'Europe. L'ancien président croupit dans une géole de Tbilissi et le pouvoir pro-russe a bloqué le processus vers l'ouverture de négociations avec l'Union européenne. L'écrasante majorité des Géorgiens, pourtant, 80% selon les diverses enquêtes d'opinion, continue à rêver d'Europe. La victoire des pro-européens à Erevan est pour eux un signe d'espoir. Le futur de l'Europe se joue sur ses limes, au Caucase comme en Ukraine, en Moldavie, mais aussi dans les Balkans. Les 27 doivent en avoir conscience et surtout relancer une ambitieuse politique de voisinage.
Merci beaucoup Marc Semo. Et donc, je le disais, on votait en Arménie la semaine dernière, Régis Jeantet. Quelle a été la place des questions de politique étrangère, de relations avec l'Europe, avec la Russie, dans la campagne? Vu d'ici, on a eu l'impression que le sujet était dominant. Comment est-ce que vous avez observé les choses? Quelle était son importance dans cette campagne?
Il était important, mais vous avez raison de le dire en creux. Bien sûr qu'il est aussi question de politique intérieure. Et c'est d'ailleurs une des raisons du succès depuis 2018 de Pachignan, du fait qu'il tient malgré la défaite au Karabakh. Ce qu'on oublie un peu en France, qu'on pense qu'il n'y a que le Karabakh, que c'est très important, et c'est très important. Enfin, Pachignan, c'est aussi quelqu'un qui refait les routes, qui essaie d'améliorer l'économie, pas toujours avec grand succès, mais en tout cas qui est vraiment au service de cette population qui est une des plus pauvres, en fait, de l'ancien espace soviétique, avec une forte émigration en Russie, etc. quoi. Donc, mais cela dit, effectivement, la question européenne est importante, parce que c'est quand même toute l'orientation du pays, et ça, c'est très concret, parce que ça veut dire que c'est pas la même ambiance, c'est pas le même rapport à la corruption, c'est pas le même rapport à l'autoritarisme, etc. Donc ça a aussi pris de l'importance, effectivement.
Je vous pose la même question, Taline Papadzian.
Dans la campagne, le thème de la guerre et de la paix a été très important. Nicole Pachignan s'est présentée comme le parti qui avait entamé le processus de paix et qui entendait le continuer envers et contre tout. Et en fait, il a beaucoup appelé à sa réélection sur le thème « Société arménienne, emparez-vous de la paix, parce qu'elle est la vôtre et celle de vos enfants », pour le faire simple. Face à lui, les partis qui sont... pour différentes raisons, avec certaines des nuances un peu différentes, mais qui sont tous des partis qui rentrent dans ce monde oligarchique, criminel et autoritaire, on va dire, de la gouvernance à la russe, pour faire un peu simple, c'est leur point commun entre ces trois partis-là d'opposition. Eux ont fait campagne sur le thème « Pachignan, c'est un défaitiste, c'est quelqu'un qui a fait des concessions abondantes et nous nous présenterons pour amener une paix meilleure aux Arméniens ». Donc une partie du résultat de l'élection de dimanche s'est clairement exprimée sur ce thème et le choix de la société et de poursuivre en direction de la paix, mais aussi sur d'autres choses. Régis avait raison de souligner les progrès sociaux et économiques qui sont importants, faits depuis 10 ans, l'ambiance de liberté qui est quand même extrêmement frappante quand on va à Yerevan dans cette société, la société civile a un rôle extrêmement important. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, c'était ça les points principaux de cette élection.
Marc Sémo.
Oui, dans cette élection, les menaces de Moscou ont été explicites, notamment pour rappeler très lourdement que tout a commencé en Ukraine, parce que l'Ukraine avait voulu s'associer à l'Union européenne, CQFD. Si l'Arménie fait la même chose, ben il lui arrivera la même chose. Et les menaces sont d'autant plus fortes et ont été ressenties d'autant plus injustes que, par ailleurs, la Russie était totalement incapable, au moment de l'attaque azérie ou au Karabakh, de défendre l'Arménie avec qui elle avait des accords de défense et qui était traditionnellement son allié. Donc, est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, un vrai basculement dans la conscience des Arméniens par rapport à Moscou?
Oui, effectivement, là, vous avez raison de le rappeler, la guerre du Karabakh de 2020 et qui s'est conclue après en 2023 a été une vraie leçon pour les Arméniens, parce que non seulement la Russie n'a pas aidé l'Arménie, partenaire stratégique pourtant du point de vue de Moscou et d'Yerevan au Karabakh, ce qui se défendait d'une certaine façon, en tout cas Moscou disait, mais le Karabakh n'a pas été reconnu par l'Arménie, donc c'est pas une agression contre l'Arménie, etc. Mais surtout, 200 km² ont été pris par l'Azerbaïdjan du territoire souverain arménien, pas du Karabakh, de l'Arménie elle-même, et sont toujours pas rendus d'ailleurs. Et là, il y avait notamment un partenaire stratégique bilatéral qui aurait dû fonctionner, que la Russie n'a absolument pas activé, puisque Moscou a joué sur ses intérêts stratégiques avec l'Azerbaïdjan, la Turquie. Et deuxièmement, elle aurait pu aussi activer le mécanisme de l'organisation du traité de sécurité collectif, qui est une sorte d'organisation de défense, une sorte d'OTAN dominée par la Russie. Et là, il y avait toutes les bases juridiques pour intervenir pour ces 200 km² dont je parlais, qui est quand même une agression contre le territoire souverain de l'Arménie et que Moscou n'a jamais activé. Donc effectivement, la population s'est dit à quoi ça sert d'avoir un tel partenaire, un tel protecteur, puisqu'il ne nous protège pas à ce moment-là. Et ça a encouragé Pachignan, qui lui, par son background, par son histoire politique, dès 2018, on voyait bien que c'est quand même quelqu'un qui aspirait plutôt à l'Europe, et une grande partie de la société arménienne, de la jeunesse, parle plutôt anglais que russe, par exemple. Mais... Et donc, ça l'a poussé à faire ce revirement stratégique, à se retourner vers l'Europe, ce qui était un pas assez dangereux, à vrai dire, aussi.
Et c'est vrai, Taline Papadzian, il faut rappeler qu'en 2018, quand Pachignan arrive au pouvoir, on est dans un contexte, un mouvement social anticorruption très fort. Lui-même est un ancien journaliste qui a beaucoup défendu la lutte anticorruption. Et la question de savoir quelle relation il allait entretenir avec Vladimir Poutine était scrutée partout. Et on a observé une posture de grande prudence qu'a observé Pachignan. Est-ce que, comme le disait Régis Janté, il y a une rupture qui a été actée là par rapport aux années précédentes d'un pragmatisme de relations entretenues entre Pachignan et Poutine ?
En fait, je crois qu'il est important de nuancer et peut-être d'avoir à l'esprit la singularité de la trajectoire arménienne dans cette marche vers la démocratisation. Parce qu'en 2018, quand la révolution de velours a lieu, l'Arménie est dans une telle dépendance par rapport à la Russie, et finalement, aux yeux du monde entier, elle n'est rien si ce n'est une vassale de la Russie, que quelque part, ce mouvement surprend tout le monde. Alors qu'en réalité, la société civile arménienne est régulièrement montée au créneau depuis des années et des années, et qu'en fait, 2018 bouillait sous le couvercle de la marmite. Et au moment de la révolution de velours, en effet, tout le monde se dit « Bon, très bien, comment maintenant l'Arménie va faire ?» Et l'Arménie est extrêmement prudente et signale tout de suite à Moscou que son souhait de démocratie, son souhait de lutte anticorruption n'a rien à voir avec un pivot géopolitique, elle n'est pas en train de se tourner vers l'Ouest tous azimuts. Et en effet, les premières années restent encore extrêmement, si je puis dire, dociles de ce point de vue-là. La rupture a vraiment lieu avec la séquence de la guerre des 44 jours de 2020 jusqu'à la perte finale du Haut-Karabakh, puisque depuis 20 ans, 30 ans même, les Arméniens avaient consenti à des sacrifices extrêmement importants de leur souveraineté, de leur liberté, de leur démocratie, sur l'autel de ce conflit du Karabakh et de la sécurité des Arméniens de cette enclave dont ils étaient devenus les garants, dont ils s'étaient portés garants. Et tout ça s'effondre, c'est-à-dire à la fois la protection russe et à la fois la marge de manœuvre des Arméniens dans cette protection à assumer de leurs compatriotes du Haut-Karabakh. Tout cela s'effondre entre 2020 et 2023. Et le pivot, si pivot il y a vers l'Ouest, en fait, arrive après ces événements-là. On reste extrêmement prudent aujourd'hui encore en Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie tente un parcours qui est unique, où tout en restant dans les structures dominées par la Russie, que ce soit l'organisation du traité de sécurité collective ou l'Union économique eurasienne, l'Arménie tente d'accroître ses marges de manœuvre tout en réduisant les risques extrêmement forts, y compris sécuritaires, posés contre elle par son ancienne alliée russe.
Juste une précision sur l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, donc dont l'Arménie est un membre fondateur, hein, d'ailleurs, en 1992. Est-ce que Pachinian n'avait pas annoncé l'idée d'en partir ? Vous disiez à l'instant qu'elle restait et qu'elle allait se ménager des marges de manœuvre. Cette annonce de départ, elle est effective ou pas ?
Vous avez raison de le souligner, en fait. L'adhésion de l'Arménie est pour le moment gelée. C'est-à-dire qu'elle est toujours formellement un partenaire, mais elle ne participe plus à aucune réunion. Et Pachinian a annoncé qu'un jour, la question serait mise à l'agenda politique de l'Arménie.
D'accord. Et elle ne finance plus, elle ne cotise plus pour sa quote-part à l'OTSC.
Alors justement, prenons la question de l'autre côté. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un délai, alors il faut, effectivement l'Arménie est prudente et a raison compte tenu du contexte, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un délai, l'Arménie décide, elle aussi, comme l'avait fait la Géorgie, même si ça a été après bloqué à cause par le pouvoir pro-russe, de demander, de poser sa candidature pour l'Union européenne. Alors, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a une énorme dépendance de l'économie arménienne par rapport à Moscou. Il y a aussi une grande dépendance militaire, même si l'Arménie fait un accord de défense maintenant avec la France. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fasse acte de candidature pour Bruxelles ?
Je dirais que, comme pour presque tous les pays de la région, c'est tout à fait suspendu au sort de l'Ukraine et du conflit en Ukraine. Si la Russie devait sortir perdante, ou alors on serait sans doute dans un entre-deux, il y aura peut-être pas un clair vainqueur, mais sort très affaibli de ce conflit, ce qui est tout à fait possible à la lumière des derniers mois où on voit que le front ukrainien est tout à fait stabilisé, voire que c'est l'Ukraine qui est plutôt en train de reprendre un peu de terrain et de la puissance. Sans doute que l'Arménie passera à l'acte, effectivement. Si en revanche la Russie sortait vainqueur du conflit en Ukraine, elle n'en sera que plus puissante. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la question ukrainienne, évidemment, et c'est ce que vous disiez dans votre édito, elle est liée à toute la région. En fait, Poutine, et c'est comme ça qu'il parle à M. Trump, d'ailleurs, veut sa doctrine Monroe, veut sa zone d'influence privilégiée, sinon exclusive même. Pour moi, par exemple, la guerre en Ukraine 2014, puis relancée en 2023, commence en Géorgie en 2008. C'est la même guerre. C'est la même motivation, le même modus operandi, en fait. Donc c'est la même guerre, et c'est-à-dire qu'il s'agit de... Il n'y a pas de pays qui ne soit pas important. Donc c'est bien de faire une émission sur le Caucase, parce que qu'on soit la grande Ukraine, avec à l'origine 42 ou 45 millions d'habitants, ou la Moldavie, ou l'Arménie à 2-3 millions d'habitants, on a l'impression que c'est presque aussi important. J'ai toujours été frappé, moi, lorsque j'allais en Moldavie, par exemple, de voir le déploiement de moyens de la Russie pour garder le contrôle d'un pays très petit, très faible en réalité, que ce soit avec l'Église, avec les oligarques, avec les conflits séparatistes, avec les médias, avec les régions sensibles, vraiment un grand déploiement de moyens. Et on le voit à l'œuvre aujourd'hui en Arménie, parce qu'on a vu ces moyens à l'œuvre, et l'homme qui est par exemple à la manœuvre pour essayer de, notamment pour la partie hybride de la guerre, avec l'Arménie, c'est Sergueï Kirienko, qui est un des plus proches de M. Poutine, qui est l'homme en charge des quatre régions annexées en Ukraine, qui est l'homme en charge des régions séparatistes géorgiennes, etc. Donc on a vraiment au plus haut niveau un intérêt manifesté pour garder l'Arménie dans son giron, comme la Moldavie, comme l'Ukraine, comme la Géorgie, comme l'Asie centrale.
Eh bien, c'était la question que j'allais aussi vous poser, Taline Papadzian. Si on prend la situation à l'échelle régionale, comment est-ce que vous expliquez la façon dont le Caucase est perçu à la fois comme stratégique, peut-être aussi comme symbolique du fait de l'histoire soviétique partagée, du fait de cette dimension géographique qu'on appelle parfois l'étranger proche. Voilà, comment tout ça se mêle avec aussi des intérêts économiques très contemporains. Comment est-ce que vous analysez l'intérêt de la Russie pour le Caucase ?
Ouais, le Caucase du Sud, c'est historiquement cette expansion vers le sud de l'Empire russe. Donc évidemment, ça fait partie de ce que, du point de vue de la Russie, étaient constituées les marges de l'Empire. Et comme pour beaucoup d'autres anciennes républiques soviétiques, la Russie ne s'est pas départie de ce prisme. Et donc, elle continue de considérer tous ces pays comme des périphéries qui sont acceptables, j'allais dire, tant qu'elles sont relativement obéissantes, tant qu'elles sont relativement dociles. Et ces dernières années, donc évidemment, ça fait longtemps que la Géorgie a affirmé ses ambitions et ses volontés occidentales. Donc le parcours de la Géorgie est différent. L'Azerbaïdjan, quant à elle, arrive à mener une diplomatie qui est assez souverainiste, de manière assez affirmée, parce qu'elle dispose des ressources que l'on sait en hydrocarbures, et que donc elle a réussi au fil des années à s'affirmer grâce à ces ressources-là comme quelqu'un avec qui on devait compter. Elle est devenue extrêmement importante pour Moscou dans les années 2010, mais ça s'est accentué avec les plans d'invasion de l'Ukraine, puisqu'il y a eu la signature d'un partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Russie exactement la veille de l'invasion russe de l'Ukraine de 2022. Et le parcours de l'Arménie, c'est finalement un peu ce dernier élément du Sud-Caucase qui peut complètement changer la donne, qui peut complètement changer la face et faire que cette ancienne périphérie bascule, ou en tout cas échappe à une partie de l'influence russe. Alors, gardons-nous bien sûr d'être trop... de mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs. Les facteurs de dépendance sont extrêmement nombreux. Le gaz a été cité, il y a les produits agroalimentaires, il y a la présence d'une population arménienne en Russie, extrêmement importante. Elle a d'ailleurs joué un rôle dans les élections, on en parlera peut-être. Donc, il y a différents leviers que la Russie utilise, je ne dis même pas qu'elle pourrait utiliser, qu'elle utilise déjà de manière assez frontale, assez agressive, pour faire entendre raison de son point de vue à l'Arménie. Donc là, s'il y a basculement du Caucase, grâce à cet élément manquant du puzzle qui était l'Arménie, pour la Russie, c'est évidemment une humiliation terrible.
Vous avez évoqué l'Azerbaïdjan, qui est peut-être un cas un peu à part du fait de l'importance de ses ressources en hydrocarbures, qui lui donne un poids politique grâce à cette indépendance économique. Est-ce que ça veut dire, en creux, que quand on prend l'Arménie et la Géorgie, cette question de la dépendance économique et énergétique, elle est déterminante dans les relations avec la Russie, et que la diversification que promet Pachinian en Arménie, elle passera nécessairement par des partenariats économiques avec d'autres pays?
Oui, elle est importante, ça c'est sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit le facteur si déterminant, parce que l'Azerbaïdjan aussi en dépend, finalement, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, et d'ailleurs, ce qui ne sont pas publiés aujourd'hui, mais on a probablement 5 ou 600 000 Azéris qui travaillent en Russie, parce que malgré tout, c'est une économie de rente pétrolière, donc qui n'est pas toujours créatrice d'emplois, et donc la soupape sociale, c'est aussi de trouver de l'emploi en Russie, et c'est aussi vrai pour l'Azerbaïdjan, malgré sa richesse. C'est vrai que l'Azerbaïdjan, comme vous le disiez très bien, un peu plus de marge de manœuvre grâce à son pétrole, grâce aussi à une alliance avec la Turquie qui a été absolument déterminante pour reprendre le contrôle du Karabakh en 2020-2023. Mais ça n'empêche pas l'Azerbaïdjan d'avoir des crises aussi avec la Russie. Il y en a eu une très sévère l'an passé. Alors, l'influence, elle s'exerce en un mot, effectivement, à travers l'économie. Ça, c'est sûr que c'est important, notamment l'énergie. La Russie, dans toutes les anciennes républiques soviétiques utilisent l'énergie comme un levier de pouvoir. C'est vrai dans toutes les républiques. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Elle s'appuie aussi sur des réseaux. Par exemple, on sait que les gens, plutôt des services de sécurité, c'est moins vrai de l'armée, c'est moins vrai de la police, mais les services de sécurité sont souvent très liés à la Russie. C'est un vrai facteur d'influence. Au point que dans les ex-républiques soviétiques, c'était vrai en Géorgie sous Saakashvili, on essaie de contrebalancer l'influence du KGB local ou ex-KGB local par d'autres structures qu'on crée dans le ministère de l'Intérieur, etc. Et puis, il y a les oligarques. Et ça, c'est aussi très important, parce qu'un oligarque, c'est un acteur géopolitique. C'est pas seulement quelqu'un de riche qui prend un peu de pouvoir pour défendre ses intérêts dans son pays, c'est un acteur géopolitique régional. Très souvent. On le voit en Géorgie avec Bidzina Ivanishvili qui a fait toute sa fortune. C'est pas simplement un oligarque, c'est quelqu'un qui a été parmi le tout petit groupe qui a fondé l'oligarchie en Russie. Il vient du cœur du pouvoir russe. Karapetian, qu'on a vu, qui a eu à peu près 23% des voix lors de l'élection de dimanche en Arménie, c'est quelqu'un que j'avais repéré, moi, par exemple, en 2018, en couvrant la révolution de velours, parce qu'au moment où Pachinian a toute la rue derrière lui, la Russie essaie encore d'écarter Pachinian, de placer quelqu'un, et l'homme à la manœuvre, c'est déjà Karapetian. Donc on l'a vu venir et on voit qu'il est toujours dans la course. Donc ça, c'est vraiment une manière de fonctionner de la Russie. Elle l'a fait aussi en Ukraine avec les oligarques qui, pour la plupart, pour une partie en tout cas, étaient dans les mains des Russes. Donc c'est un vrai levier d'influence pour garder son empire.
Alors, pour en venir à la Géorgie, est-ce que la route vers l'Europe est vraiment finie? Parce qu'il y a eu le gel, finalement, du processus qui s'est engagé parce que le gouvernement a pris des lois, a adopté des lois liberticides, copiant celles de la Russie. Malgré tout, l'écrasante majorité de la population continue à rêver d'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose se passe? Et deuxièmement, qu'est-ce que peut faire l'UE pour malgré tout ne pas définitivement fermer la porte à la Géorgie?
C'est effectivement très compliqué parce que le pouvoir est très très puissant. On voit ce que c'est qu'un oligarque qui tient un pays. La Géorgie est un exemple parfait. C'est vraiment un seul homme qui a fait vaciller ou fait changer, pivoter le pays. Et pour le moment, voilà, il a mis en place des lois qui sont complètement d'inspiration russe et qui créent un régime de type russe extrêmement autoritaire aujourd'hui, avec beaucoup de gens de la société civile, des ONG qui sont en train de partir. Beaucoup, beaucoup. Donc on a l'impression que là encore, ça va beaucoup dépendre du sort de l'Ukraine. Est-ce que la Russie sortira si affaiblie de la guerre en Ukraine que du coup, ça permettra à ces sociétés, effectivement, parce que la vraie lame de fond, ce sont ces sociétés qui aspirent à devenir européennes. Pas toujours pour des raisons idéologiques. Il n'y a pas que les droits de l'homme, c'est aussi parfois parce que la prospérité, absolument. Mais ça, c'est un vrai moteur et ça compte après tout. Et effectivement, qu'on voit partout d'ailleurs, c'est peut-être même une des raisons pour lesquelles Poutine fait la guerre, c'est qu'il a perdu les populations. Il a perdu l'Ukraine, il est en train de perdre l'Arménie alors qu'elle était complètement acquise à cause de son histoire, le génocide, la sécurité qu'elle exigeait. Et donc la Géorgie, je crois que là, elle est partie pour peut-être un long moment d'être dans la direction à laquelle la population n'aspire pas du tout, effectivement, et que l'Europe ne peut pas faire grand-chose sinon mettre la pression encore sur les dirigeants et soutenir ce qui reste de la société civile, ce qui reste des médias. Parce que le socle est là.
Ivanishvili a un passeport français.
Oui.
Il n'y a pas moyen, par exemple, de faire pression, y compris sur le sort de Mikhaïl Saakachvili, qui en prison va quand même très mal.
Absolument. C'est une question qui est évoquée. Je crois que l'idée de sanctions ferait qu'on le perdrait définitivement. Ce qu'on comprend aussi, c'est que lui, entre perdre son passeport et perdre la vie, parce que la relation avec la Russie, c'est pas une relation d'amitié, c'est pas une relation de sympathie idéologique, c'est véritablement un pur rapport de force. Et c'est quelqu'un qui vit sous l'empire de la peur aussi, dans sa relation à la Russie.
Taline Papadian, Régis Chanté parlait de cette lame de fond des sociétés civiles de la Russie qui a perdu les populations du Caucase. Est-ce que vous observez des circulations justement entre l'Arménie et la Géorgie, entre ces sociétés civiles dont vous nous rappeliez qu'en Arménie, elles sont très mobilisées, qu'elles apprécient aussi aujourd'hui, qu'elles se déploient dans un univers qui respecte la liberté. Est-ce qu'il y a des coopérations à l'échelle infra-étatique entre les différents pays du Caucase ?
Alors, trop peu, mais je voudrais dire à quel point ce que Régis vient d'expliquer est important. Il est parfaitement exact que le rôle des sociétés civiles dans ces deux pays est primordial pour bien comprendre le processus démocratique et ses blocages éventuels d'ailleurs, hein, puisque on l'a vu, les partis politiques sont extrêmement faibles. Donc que ce soit ce qui s'est passé en Géorgie ces dernières années, ou que ce soit d'ailleurs les difficultés auxquelles est confronté le contrat civil, dont on voit qu'il n'arrive finalement pas à avoir une opposition digne de ce nom en face de lui. Et ça, c'est un véritable cadeau empoisonné pour la consolidation démocratique, puisque si la démocratie électorale parvient à avancer jusqu'à un certain point, elle risque ensuite d'être mise en péril par cette faiblesse des partis politiques. Et ce qui en revanche soutient quand même le processus démocratique, c'est bien la société civile, c'est bien le fait qu'elle soit extrêmement volontaire, qu'elle puisse agir sur différents fronts, sur différentes questions. Alors, trop peu de collaboration, malheureusement, parce que pour des raisons qui sont assez évidentes quand on regarde l'histoire de ces pays-là, ces pays ont évolué, j'allais dire, sinon dans une certaine méfiance l'un par rapport à l'autre, en tout cas en ayant acté le fait que pendant des décennies, ils avaient des trajectoires qui géopolitiquement les plaçaient dans deux camps opposés, ou en tout cas extrêmement distincts, donc camp occidental pour la Géorgie et camp pro-russe pour l'Arménie pendant très longtemps, les choses sont en train de changer, et peut-être même de se retourner, hein, d'être quelque part à front renversé depuis quelques années, mais ça reste récent. Et pour pouvoir consolider cette marche vers la démocratie, il faudra absolument que les sociétés civiles se parlent davantage et collaborent davantage. On voit qu'elles commencent à le faire. La société civile géorgienne, notamment, regarde avec beaucoup plus d'intérêt et peut-être un peu moins de dédain, parce que la Géorgie a été longtemps l'enfant chéri des Européens et des Occidentaux, et elle regardait un peu la société civile arménienne de haut par moment. C'est en train de changer. Il y a des coopérations qui sont en train de se mettre en œuvre aussi parce que cette société civile géorgienne est étouffée, et que, à l'inverse, on a en Arménie une société civile qui jouit d'une assez grande liberté, d'une grande liberté même. Et donc, des coopérations et des dialogues se mettent à l'œuvre. Là où avant, Tbilissi était un peu le centre dans lequel les trois pays du Caucase du Sud pouvaient de temps en temps venir se réunir et discuter, notamment parce que les Azerbaïdjanais et les Arméniens, ne pouvaient pas se parler ailleurs, pour ainsi dire. Les choses sont en train d'évoluer un peu et de se diversifier. Et vraiment, à mon sens, coopération renforcée entre la Géorgie et l'Arménie ne peut que servir à consolider cette région du Caucase du Sud qui jusqu'à aujourd'hui est extrêmement fragmentée. Hein, donc trois pays, des sociétés qui se parlent peu, qui se regardent peu, et tout cela doit changer pour consolider la région.
Régis Chanté.
Oui, juste un mot. Je pourrais souscrire à chaque mot que vient de prononcer Taline, et c'est une réponse aussi à votre question, Marc, parce que voilà, que peut faire l'Europe, c'est soutenir ces sociétés civiles, parce qu'elles nous ressemblent, elles sont inspirées par l'Europe, et les inciter à coopérer entre elles, parce qu'elles ont une telle expérience. Et juste un petit mot, parce qu'on les critique souvent, on critique souvent cette société civile en disant qu'elle est financée de l'étranger. Alors, c'est ce qu'on dit dans les pays, c'est pour ça que la Russie a poussé cette loi sur les agents de l'étranger, mais on l'entend aussi en France, alors que qu'en réalité, sont, bien sûr, ils prennent l'argent là où il est, et ce ne sont pas les oligarques locaux ou les gens aux aspirations autoritaires qui vont leur donner de l'argent, mais en même temps, ils font vraiment leur travail. Je pourrais citer des ONG, par exemple, en Géorgie, qui étaient très critiques à l'égard de Saakashvili, qui ensuite ont été très critiques à l'égard d'Ivanishvili, et aujourd'hui, elles ont été quasiment détruites.
Vous écoutez Culture Monde, la politologue Taline Papadzian et le journaliste Régis Janté sont nos invités pour parler des relations entre la Russie et le Caucase et l'Europe. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec Cartooning for Peace. Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Amorim, un dessinateur brésilien. On y voit une file d'attente où trois personnages patientent devant une porte close. Ils ont en main un ticket comme ceux que l'on trouve dans les administrations qui permettent de savoir qui va être reçu et dans quel ordre. La porte close, c'est celle de l'Union européenne, reconnaissable à son drapeau, tandis que les trois personnages ne sont autres que la Moldavie, la Géorgie et en dernier l'Ukraine. Cette dernière est en mauvaise posture puisque se tient derrière elle un fauve à la gueule béante prêt à l'avaler. Dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de l'émission et la page internet de Culture Monde. Une réaction peut-être de nos invités à cette caricature. Taline Papadzian, je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire.
Oui, peut-être la place de la Russie aurait dû être encore plus marquée que ce fauve à la gueule béante. J'imagine que c'est la Russie qu'on a évidemment dans ce dessin-là. Et je ne suis pas absolument certaine que la porte de l'UE soit hermétiquement close comme le dessin la représente. En tout cas, on ne sait pas très bien aujourd'hui. Hein, il y a le partenariat oriental qui est à revigorer. Les différents processus de collaboration entre, je vais reprendre l'Arménie, mais Régis me complétera abondamment sur la Géorgie, qui existe entre l'Arménie et l'Europe, se font de manière plutôt ad hoc, plutôt bilatéral, en tout cas ces dernières années. Et donc, il va falloir mettre là-dedans une sorte de, enfin, une vision de long terme, que ce soit pour la région du Caucase du Sud ou pour les pays qui ont fait vœu de candidature, soit déjà réalisé aujourd'hui, soit pour le futur, comme c'est le cas de l'Arménie.
Je vous laisse commenter, mais j'avais aussi une question par rapport à la loi sur les agents de l'étranger dont vous parliez. Cette loi, elle a été définitivement adoptée il y a pile 2 ans, en mai 2024, après d'un long combat de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, en 2 ans, qu'est-ce que ça a changé? Comment ça a transformé le pays? Elle était extrêmement redoutée par toutes les associations. Voilà, j'ai aussi un mot là-dessus.
Elle a conduit, avec d'autres lois ou d'autres mesures, à faire que la société civile est complètement écrasée. Il y a eu d'autres lois pour compléter, pour vraiment les empêcher d'être financé d'où que ce soit, pas seulement de l'étranger d'ailleurs, à l'intérieur du pays. Et donc, elle n'existe quasiment plus, ni les think tanks d'ailleurs, tous ces centres de recherche qui produisaient de l'analyse. Et puis, parallèlement, mais c'est dans le même mouvement, parce que cette loi sert de colonne vertébrale, en fait, à l'établissement d'un nouveau régime, eh bien, on a aujourd'hui, j'ai pas le chiffre en tête, mais près d'une dizaine de politiciens majeurs qui sont en prison une intention qui n'est pas encore complètement matérialisée, mais d'interdire les partis d'opposition, simplement parce qu'ils sont pro-européens, en fait. Donc ça a vraiment changé la donne, ça a vraiment créé un autre régime. C'est une vraie révolution, quoi.
Donc les effets qui étaient redoutés au moment de l'opposition à cette loi...
Il faut toujours écouter les peuples de la région, ils comprennent très très bien ce qui se passe. Je me souviens du soir de l'invasion à grande échelle, le 24 février 2022 de l'Ukraine. J'étais sur la place à Tbilissi et les gens me disaient « notre sort dépendra de la sort de la vie en Ukraine ». C'était des jeunes de 17 ans, 20 ans qui étaient là, ils avaient déjà tout compris, quoi. Donc il faut toujours écouter les gens de la région. Quant à l'adhésion et cette caricature... Oui, non, je ne pense pas que la porte soit fermée. Le chemin est long, bien sûr. Lorsque j'ai commencé ma carrière dans la région, en 2002, je discutais avec des diplomates et lorsqu'on évoquait le possible avenir européen de la Géorgie ou dans l'OTAN, on pouffait de rire, quoi. Et ça faisait sens à l'époque. Aujourd'hui, on ne pouffe plus de rire parce que c'est tout à fait une possibilité. Le tout, après, ça va être de donner sens à tout ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on ne les fait pas entrer simplement dans l'Europe pour le plaisir? Il faut qu'ils soient contributeurs, il faut que l'Europe se prennent aussi sens par rapport à ce que ça veut dire que de les accueillir, par rapport à la Russie. Du point de vue sécuritaire, c'est aussi les intégrer, c'est bien éviter peut-être des crises majeures, parce qu'on voit qu'en permanence, on a des crises majeures dans ces pays, la guerre en Ukraine, la guerre en Géorgie, la guerre au Karabakh. Et donc, c'est aussi, faut pas croire que c'est simplement ça se passe à nos portes et tout va bien. Forcément que ça nous affecte, et même profondément, on l'a vu même avec la guerre en Syrie, effectivement. Donc, les intégrer avec un projet de paix qui va avec et de stabilisation de la région et des portes de l'Europe, c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est pas la question simplement entrer ou ne pas entrer.
Les voix du duo franco-arménien La Daniva avec ce titre Zepurin Man, extrait de leur dernier EP sorti en 2020. Merci beaucoup à nos deux intervenants, Régis Janté, journaliste et spécialiste de l'ancien espace soviétique, correspondant durant plus de 20 ans dans le Caucase. Votre dernier ouvrage, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes, est paru chez Grasset. Merci beaucoup à Taline Papadzian également, qui était en liaison depuis Aix-en-Provence, politologue enseignante en relations internationale à Sciences Po. Merci Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée au Royaume-Uni 10 ans après le vote en faveur du Brexit. Nous reviendrons sur l'essor du populisme incarné aujourd'hui par le parti Reform UK, sur la question de l'état social qui n'a pas retrouvé les marges de manœuvre promises, sur la montée des nationalismes en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, et on parlera aussi d'un pays qui cherche encore sa place sur la scène internationale. Et dans un instant, les midis de culture.